Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pas une voix n'a manqué hier au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner le tir de missile effectué la veille par la Corée du Nord. Pas une voix, pas même celle de la Chine, ultime alliée, à défaut d'être indéfectible, du régime de Pyongyang. Preuve que les gesticulations nord-coréennes sont de moins en moins bien supportées à Pékin. Preuve aussi peut-être que la Chine se décide enfin à sortir de sa discrétion légendaire pour s'impliquer davantage sur les questions internationales. D'autres indices plaident en faveur de cette thèse. En septembre, Pékin ratifiait l'accord de Paris sur le climat, donnant à celui-ci le coup de rein nécessaire pour être définitivement validé. Le mois dernier, le commerce mondial et ses zones de libre-échange se trouvaient un nouveau héros en la personne du président Xi Jinping. Promouvoir le protectionnisme, expliquait-il au forum de Davos, c'est comme s'enfermer dans une pièce noire. Et le lendemain, il était à l'ONU, à Genève, pour plaider cette fois en faveur d'un monde débarrassé de ses armes nucléaires. Alors la Chine prend-elle enfin ses responsabilités ? C'est une question que nous allons poser ce soir à trois invités au cours d'une émission que nous avons enregistrée en milieu d'après-midi en compagnie d'Alice Ekman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI, l'IFRI, Institut français des relations internationales. Pour discuter avec vous, Jacques Gravereau.
Bonjour.
Président d'honneur de l'Institut HEC Eurasia, qui, comme son nom l'indique, est un centre d'expertise asiatique basé à HEC. Vous venez de publier aux éditions Erol, La Chine conquérante, enquête sur une étrange superpuissance. Et puis notre troisième invité, c'est Emmanuel Linco. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes notamment initiateur d'un MOOC géopolitique de la Chine. Alors avec vous trois, je voudrais qu'on démarre par l'actualité la plus récente dans laquelle la Chine se trouve impliquée, à savoir cette condamnation unanime hier au Conseil de sécurité, condamnation du tir de missile nord-coréen. Alice Ekman, est-ce que c'est une prise de position qui vous a surpris ou bien est-ce que vous y voyez une forme de continuité, sachant que cette participation à une condamnation nord-coréenne n'est pas totalement inédite ?
Elle n'est pas inédite et je pense que sur le fond, il ne faut pas s'attendre à un changement de position de la Chine. Lorsqu'on lit un nouveau texte officiel qui est le livre blanc sur la coopération de sécurité en Asie-Pacifique, donc c'est un texte que la Chine, les autorités chinoises ont publié le mois dernier, il y a un paragraphe sur la Corée du Nord et la position reste la même.
À savoir
C'est-à-dire que ce texte explique que la position de la Chine est claire et cohérente. Alors, on est nombreux quand même à trouver que parfois il y a une forme d'ambiguïté entre soutien et entre l'action sur le terrain et la communication dans diverses instances internationales. Et surtout, le paragraphe sur la Corée du Nord dans ce document se termine par la phrase suivante. Les autres parties devraient également faire des efforts pour reprendre les discussions et assumer leurs responsabilités pour assurer la stabilité sur la péninsule coréenne. Les autres parties, il faut comprendre les États-Unis. Donc c'est un discours que la Chine tient depuis longtemps. La Chine explique qu'elle fait assez vis-à-vis de la Corée du Nord et que c'est aux États-Unis de bouger entre guillemets. Sur le fond, la Chine a intérêt au maintien du régime nord-coréen et surtout, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sous Xi Jinping, la Chine souhaite remettre en cause le système des alliés américain dans la région. Et dans ce contexte-là, elle ne verrait pas d'un bon œil un pays allié des États-Unis à ses frontières. Et donc, jusqu'à présent, la Corée du Nord fait office d'État tampon qui est bienvenu.
Jacques Gravereau et Emmanuel Linco, cette condamnation de la Corée du Nord par la Chine, il ne faut donc peut-être pas lui donner une trop grande importance. En tout cas, elle n'a pas la signification qu'on pourrait être tenté d'y voir assez spontanément, qui serait que la Chine, petit à petit en tout cas, prend ses distances avec son voisin turbulent. Jacques Gravereau.
Ça fait partie de la rhétorique habituelle de la Chine. Simplement, la Chine est quand même mal à l'aise avec un vilain petit canard qui, dans le temps, a été quand même royaume vassal de la Chine, avec un vilain petit canard dont elle-même n'arrive pas à maîtriser les réactions, les tenants et aboutissants. La Chine est en train, petit à petit, avec une très grande prudence, même de se joindre aux sanctions internationales. Elle a déclaré, je parle sous le contrôle de Madame Ekman, qu'elle allait restreindre ses importations de charbon de Corée du Nord. Donc c'est quand même un signal faible, mais significatif, comme quoi la Chine veut aussi mettre la pression sur Kim Jong-un.
Elle le fait pour quelle raison? Elle le fait pour jouer davantage peut-être le jeu de cette instance internationale à laquelle elle participe depuis 1971, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU, ou bien elle le fait d'abord parce que la Corée du Nord commence vraiment à lui taper sur les nerfs?
La Corée du Nord commence à lui taper sur les nerfs, et deuxièmement, la Corée du Sud, qui avait fait des tas de grâces à la Chine, Madame Park, aujourd'hui en disgrâce, mais Madame Park Geun-hye a participé au défilé du 3 septembre 2015 que Xi Jinping avait organisé de façon grandiose, alors que toutes les autres démocraties n'y étaient pas. Et elle escomptait qu'il y aurait un geste diplomatique en faveur d'un affaiblissement des tensions dans la péninsule coréenne. Et comme il n'y a pas eu de signal clair de Pékin vu par Séoul, Madame Park Geun-hye, elle a rejoint l'année dernière le TAD, enfin le fameux High Altitude Defense Terminal. Alors, on va attendre que M. Trump ait véritablement une politique asiatique, mais avec la tournure que ça prend depuis la semaine dernière, parce qu'avec Trump, évidemment, ça peut varier de semaine en semaine, mais on voit que si le TAD en faveur de la Corée du Sud est maintenu, ça serait une défaite diplomatique pour Pékin.
Emmanuel Linco.
Alors, les essais nord-coréens, de toute façon balistiques ou nucléaires, ont toujours lieu après que la Chine soit verbalement intervenue, notamment dans des discussions avec ses homologues américains. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est toujours une question de timing. Et c'est une façon, toujours, après coup, pour la Corée du Nord, de se singulariser et de dire « bon, j'existe ». Parce que, alors après, on peut faire une analyse pseudo-psychanalytique, mais moi, j'y vois toujours un appel au secours, en fait, du dirigeant nord-coréen, moins vis-à-vis de son allié chinois que vis-à-vis des Américains, en disant « attention, nous existons, mais en même temps, nous avons besoin objectivement de vous ». Et finalement, paradoxalement, les Nord-Coréens, pour des raisons nationalistes, historiques, etc., craignent, à mon avis, davantage l'omniprésence, voire l'hégémonie chinoise, que le rapport assez distancé avec les États-Unis. Et surtout, pour finir, et je rejoins tout à fait les propos de Jacques Gravreau au sujet donc des conséquences de l'installation de la batterie FAD en Corée du Sud, avec l'appui, bien sûr, des Américains contre les Nord-Coréens. Mais les affaires nord-coréennes sont toujours révélatrices aussi de tensions au sein du Politburo chinois. Et la position que rappelait Lee Seok-man à l'instant du Parti communiste chinois, qui révèle un certain continuum, effectivement, dans la gestion de ces affaires nord-coréennes, s'explique aussi parce que la grande échéance, et nous allons en reparler, évidemment, pour Xi Jinping et le bureau politique, c'est le congrès de l'automne prochain. Donc il faut établir effectivement une sorte de stabilité, même si c'est en réalité un double langage qui est tenu, à mon avis, par Pékin.
Vous parlez tous les trois de continuum, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir au moins une rupture dans la question, alors si ce n'est nord-coréenne, en tout cas la question nucléaire, puisque les deux questions sont liées, lorsque Xi Jinping va mi-janvier à Genève, à l'ONU, au lendemain de sa présence au Forum économique de Davos, et où il plaide pour une dénucléarisation du monde en disant il faut absolument détruire les stocks d'armes nucléaires. Là, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de prise de responsabilité de la Chine par rapport à un statut qui est le sien aujourd'hui, deuxième puissance économique mondiale, conduite à devenir la première puissance? Lee Seok-man, est-ce qu'on n'est pas là quand même dans un changement d'attitude, au moins dans le discours, si ce n'est dans les faits?
Dans le discours, c'est sûr. La Chine elle-même se présente comme puissance responsable. Ça apparaît à plusieurs reprises dans les deux discours que Xi Jinping a prononcés en Suisse, donc à Davos et puis au bureau de l'ONU. En pratique, il faut voir, il faut attendre. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui permettent de dire qu'il y a une vraie action, par exemple, pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, en tout cas de la part de la Chine.
Il faut rappeler que la Chine est une puissance nucléaire.
Oui, donc... Voilà, face, par exemple, si on revient sur le cas de la péninsule coréenne, La Chine, dans ce document, donc qui est important, le livre blanc, condamne en tout cas à la fois l'appel à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et dans le paragraphe suivant, elle condamne fermement le système anti-missile SAD qu'on a évoqué, parce que c'est un système soutenu par les Américains. Et donc, elle le considère illégitime. Il ne faut pas non plus sous-estimer la dimension anti-américaine de la politique étrangère chinoise aujourd'hui. Et donc, voir ses prises de position, que ce soit sur la question nucléaire ou d'autres, en fonction aussi de cette dichotomie et de cette opposition face à la présence américaine dans la région. Il y a vraiment aujourd'hui une rivalité renforcée entre la Chine et les États-Unis qui se cristallise sur plusieurs sujets dits chauds en Asie-Pacifique. Donc, la mer de Chine du Sud, la mer de Chine orientale, la péninsule coréenne, ensuite d'une certaine, bien sûr, Taïwan, voire l'Afghanistan, et ensuite il y a un discours qui pourrait apparaître responsable, et dans les faits, la Chine n'a pas la même vision de la dénucléarisation que les États-Unis ou que l'Europe, c'est certain.
Jacques Ravreau.
Oui, enfin, la tournée suisse européenne de Xi Jinping le mois dernier a été purement et simplement une opération de relations publiques. Quand on l'entend à Davos que...
Bah, ça a fonctionné en tout cas, parce qu'on en a beaucoup parlé. Hein.
Bah, ça a fonctionné parce que les gens à Davos, ils ont la révérence des puissants et ils sont prêts à se courber devant les puissants. Mais enfin... Quand on voit Xi Jinping dire que la Chine est un pôle de stabilité, que la Chine, il n'y a pas plus libéral qu'elle en matière d'échange, que l'ouverture au commerce international, il n'y a pas mieux que la Chine, personne ne lève plus blanc, on s'amuse. La déclaration a été faite 2 jours avant que l'autre excité arrive à Washington.
Je traduis Donald
l'autre
Trump.
L'autre excité égale Donald Trump arrive à Washington avec ses rodomontades fracassantes. Bon,
mais est-ce qu'il y avait justement l'idée de se dire, voilà, Donald Trump arrive, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement imprévisible, et donc c'est aussi l'occasion pour la Chine de se présenter comme une forme de pôle de stabilité, Xi Jinping, comme un leader sur lequel au moins on peut compter, en tout cas vers qui il y a peut-être moins de surprises attendues.
Bien sûr, mais ça ne trompe pas 5 minutes ceux qui sont sur le terrain, enfin, la limitation faite aux entreprises étrangères, enfin, pour simplifier, les Chinois sont entrés à l'Organisation Mondiale du Commerce en 2001, estimant que c'était très chic de rejoindre un club aussi prestigieux, mais sur le plan de la réciprocité, de l'accès au marché, de ceci, de cela, on ne va pas rentrer dans les techniques, la Chine reste un pays fermé. Alors, tous ceux qui sont sur le terrain n'ont pas fait partie des laudateurs de Davos. Donc, il faut... c'est une très belle opération de relations publiques, point barre.
Bon, alors, quand j'introduis l'émission en évoquant justement cette intervention de Xi Jinping à Davos, en disant, voilà, finalement, il s'est aussi un peu présenté presque comme le défenseur du monde libre, si l'on sous-entend que le monde libre, ça serait aussi un monde de libre-échange. Là, c'est faire preuve d'une grande naïveté, Emmanuel Linco.
Oui, bien sûr, il faut pas être dupe hein, par rapport à ce discours. C'est un discours lénifiant, d'endormissement, on y est habitué aussi. Et c'est vrai que, malheureusement, les puissants, et là je rejoins tout à fait l'analyse de Jacques Ravreau, courbent les Chines par rapport à Xi Jinping, parce que c'est pas du tout du libéralisme, et on le sait bien. Enfin,
c'est parce qu'ils sont désorientés par Trump, peut-être justement, qu'ils se tournent, qu'ils ont envie de croire en ce que dit la Chine.
Moi j'ai une autre analyse de lecture. Alors évidemment, d'un point de vue conjoncturel, c'est une heureuse coïncidence, et Xi Jinping a adressé des coups de menton contre le futur président américain Donald Trump. Mais j'y vois avant tout, de la part de Xi Jinping, un extraordinaire aveu de faiblesse en définitive. L'économie chinoise va mal, elle est en récession, elle est surendettée, et surtout la Chine a besoin encore et toujours des investisseurs occidentaux, notamment dans un domaine absolument crucial pour la restructuration de l'économie chinoise, le numérique. Et donc c'est d'ailleurs, conjoncturellement parlant là aussi, une extraordinaire opportunité pour les investisseurs européens. On a une fenêtre de tir, comme on dit dans le jargon, et il faut pas la louper, celle-ci. Et ça sera même une échéance absolument essentielle pour le futur président de la République française.
Donc tout à l'heure, vous nous disiez la Corée du Nord appelle à l'aide la Chine sur la question nucléaire. Là, ça serait la Chine qui appelle à l'aide les Européens sur la question du commerce.
Je pense qu'il faut largement démystifier ce qui apparaît très largement encore comme un coup de bluff. Il ne faut pas céder aux sirènes chinoises.
Alice Ekman.
Alors, le discours de Xi Jinping à Davos, il y a deux parties. Enfin, deux parties. La première partie, Xi Jinping se positionne comme le soutien de la mondialisation et du multilatéralisme, les deux. pas forcément du libre-échange, même s'il parle d'accord de libre-échange. Mais avant tout, il présente comme la mondialisation comme quelque chose d'inévitable et de bienvenu face à laquelle on ne peut pas résister. Et la deuxième chose, la Chine est donc un soutien du multilatéralisme. Et dans la fin de son discours, il vante les mérites économiques de la Chine en expliquant que le ralentissement de la croissance n'est finalement pas si inquiétant et que la Chine reste une terre d'investissement, reste une puissance économique, etc. Alors, est-ce que ce discours est un coup de bluff ou uniquement une action de diplomatie publique ? Oui et non. Parce que sur le multilatéralisme, la Chine investit réellement dans le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'elle investit dans les sommets multilatéraux, elle est davantage présente, elle crée de nouvelles institutions multilatérales, de nouveaux forums multilatéraux, parce que elle souhaite non seulement contribuer à la restructuration de la gouvernance régionale et mondiale, aujourd'hui sous Xi Jinping, elle souhaite mener ce processus de restructuration. C'est-à-dire que sous Xi Jinping, la diplomatie chinoise est très ambitieuse, elle souhaite restructurer un nouvel ordre mondial basé à la fois sur des institutions multilatérales existantes et de nouvelles qu'elle a créées, toutes au sein de laquelle la Chine aura une influence comparativement plus importante que sous Hu Jintao, mais surtout une influence comparativement plus importante que les États-Unis et d'autres démocraties libérales. Donc on a vraiment aujourd'hui une compétition en termes d'influence dans les institutions. La Chine investit massivement dans le multilatéralisme au même moment où il semblerait que Trump s'en désengage. En tout cas, les premières déclarations pouvaient l'indiquer.
En tout cas, ce qui est important dans ce que vous dites, Thalia Seckmann, c'est que si la Chine fait le choix du multilatéralisme, ça n'est pas forcément le multilatéralisme et les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, mais c'est aussi créer des institutions qui soient davantage à sa main et qui lui permettent de quoi ? D'imposer sa vision
de défendre ses intérêts, défendre ses intérêts nationaux, c'est quand même le premier objectif. Ensuite, on va dire de rédiger un agenda selon ses priorités nationales, par exemple développer les investissements dans les infrastructures qui correspond à un besoin économique de Pékin et de nombreuses entreprises d'État chinoises. Donc l'approche chinoise vis-à-vis des institutions existantes, elle est triple. Tout d'abord, intégration dans les institutions existantes au sein duquel la Chine considère qu'elle a encore de la marge pour augmenter son influence.
Par exemple, ça peut être l'Organisation mondiale du commerce.
Par exemple, revigorer ou réactualiser des institutions jusqu'à présent inutiles ou mourantes, ou des forums de coopération multilatérale inutiles ou mourants, comme la SICA, qui est une conférence de coopération de sécurité en Asie. Et la Chine assure la présidence de cette institution jusqu'à 2018 et elle souhaite en faire une institution de premier plan. Et troisième approche, troisième activisme, et c'est simultanément deux autres, création de nouvelles institutions. Par exemple, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui a été créée il y a 2 ans et qui est un succès à la fois en termes de diplomatie publique, mais en termes aussi institutionnels réels, compte tenu du nombre de membres qui ont rejoint cette institution. Et la Chine aujourd'hui aussi crée une institution, c'est-à-dire une nouvelle architecture de sécurité en Asie-Pacifique. Donc c'est-à-dire que la Chine est à la fois active en termes de gouvernance économique mondiale, mais aussi gouvernance de sécurité.
On pourrait dire qu'il y a un multilatéralisme chinois qui est en train de naître et qui s'oppose ou qui tente de s'opposer à un multilatéralisme qui serait davantage dominé par les Occidentaux. Emmanuel Lincot, Jacques Gravreau, Emmanuel Lincot.
Oui, je pense en effet que de toute façon, le nouvel ordre mondial que la Chine espère créer sera un ordre mondial aux couleurs chinoises. Et en cela, défendant les intérêts chinois. Vous savez,
il y a vraiment cette volonté là.
Il y a vraiment cette volonté. Et justement, la Chine, ce pourquoi elle nous dérange, c'est qu'elle nous rappelle constamment sa souveraineté et ses besoins d'indépendance, etc. Vous savez, c'est, pour paraphraser De Gaulle, De Gaulle disait ceci, ça avait beaucoup choqué en son temps concernant les choix de la politique étrangère française. On pourrait dire que les Chinois, les communistes chinois, sont plus gaulliens que nos gaulliens d'aujourd'hui. La Chine, en l'occurrence, n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et donc, ce qu'il faut rappeler aussi, pour recontextualiser les choses, c'est que la Chine, depuis au moins 25 ans, a largement profité de la mondialisation. Les restructurations industrielles dont ont pâti toutes les économies occidentales, eh bien, cela a fait, évidemment, le bénéfice de la Chine. Or, ce qui change, c'est l'élection, bien sûr, de Trump, l'annonce par Trump qu'il y aura un grand retour des États-Unis au protectionnisme. Et cela, évidemment, est une entrave considérable au développement de cette idée de la mondialisation. Et c'est bien pour ça, ne l'oublions jamais, que Trump, précisément, a été élu. Il a été démocratiquement élu par la classe moyenne américaine qui s'est sentie complètement lésée par cette mondialisation qui a fait le jeu de la Chine. N'oublions pas non plus que Trump, alors est-ce qu'il en aura les moyens ? La question reste ouverte, cherche de nouveau à fixer son agenda pour les intérêts des États-Unis. Et en d'autres mots, donc, il ne s'agit pas que la politique étrangère des États-Unis soit paradoxalement décidée à Pékin et par les Chinois. Et j'ajouterais pour conclure, parce que ça me paraît là aussi extrêmement important, c'est que le discours de Xi Jinping, certes, s'adressait aux étrangers, notamment aux Américains, mais aussi, ne l'oublions pas, à ses propres camarades du Politburo. C'était une façon pour Xi Jinping d'affirmer sa posture d'homme d'État par rapport à l'échéance très proche qui est le futur congrès donc de l'automne du Parti communiste chinois.
Jacques Ravo.
Alors, Donald Trump, il vient de se tirer une balle dans le pied magnifique à la divine surprise des Chinois. Il a annoncé qu'il se retirait du TPP, du Trans-Pacific Partnership.
Accord de libre-échange.
Accord de libre-échange couvrant les États-Unis et tout le Pacifique, tous les pays du Pacifique, à l'exception notable de la Chine, puisque c'était une nouvelle stratégie de containment, enfin pour contenir la Chine. Et ce faisant, cette tapisserie patiemment brodée par Barack Obama, apparemment, est dégagée par un tweet de Donald Trump. Le lendemain matin, le Japon et l'Australie, qui étaient quand même des partisans du TPP, qui n'étaient pas rentrés dans le TPP de gaieté de cœur, mais que Obama avait fini par convaincre, ont dit à la Chine, ça y est les gars, il y a une place. Il y a une place de libre. Et donc, les Chinois qui étaient en train laborieusement d'essayer de leur côté de bâtir leur RCEP, enfin pardon pour les acronymes, ça devient affreux en matière internationale, mais ils sont en train de considérer la chose, de rejoindre un jour le TPP. Et ce faisant, Donald Trump évidemment tire une balle dans le pied des États-Unis. Je pense que le pauvre homme, il s'en rend même pas compte encore actuellement, même s'il a des conseillers qui lui expliquent.
Ça veut bien dire, Jacques Ravro, que la Chine est peut-être à changer d'image dans le regard de ses partenaires ou de ses possibles partenaires, et qu'elle est considérée comme quelqu'un, comme en tout cas comme un interlocuteur suffisamment fiable pour qu'on puisse faire des accords de libre-échange avec elle.
Mais c'est pas une question de fiabilité. C'est la Chine est la dynamo économique de toute l'Asie. C'est-à-dire que le Japon, la Corée, le Sud-Est asiatique, etc., vivent de l'expansion de la Chine. Depuis 20 ans, c'est la Chine qui a tiré toutes les économies. Prenez un exemple sur les Philippines. On mêle l'économie et la politique. Hein. Les Philippines, sous le précédent président Benigno Aquino, elles ont assigné la Chine au tribunal, enfin à la Cour arbitrale des Nations Unies à propos d'une île qui était contestée. C'est le sujet de la mer de Chine. Bon, on va peut-être y revenir.
Le tribunal a donné tort à la Chine.
Le tribunal a donné tort à la Chine, mais alors le 12 juillet, le 12 juillet 2016, ça a été vraiment une claque pour la Chine. Donc, autre défaite diplomatique de la Chine. Ils sont pas si bons que ça en matière diplomatique, si vous voulez. Et les Philippines, il faut savoir que 55% des exportations philippines sont des exportations d'électronique vers la Chine, n'est-ce pas, qui vont alimenter la machine chinoise, qui sont intégrées ensuite dans les iPhones ou de tout ce que vous voudrez, qui sont assemblés en Chine. S'il y a la moindre récession, parce que M. Trump aura mis des surtaxes, etc., aux produits chinois, non seulement les Chinois vont souffrir, enfin, les consommateurs américains vont souffrir les premiers d'ailleurs, mais non seulement les Chinois vont souffrir, mais aussi les Philippines, mais aussi la Thaïlande, mais aussi la Corée, etc. Donc, on est dans un ensemble où la Chine est la dynamo économique de l'Asie.
Et par rapport à cette décision, vous expliquez notamment dans votre livre que finalement la Chine, elle s'en fiche un petit peu et qu'elle s'assoit sur les règles du droit international à partir du moment où elle peut très bien s'en passer. Voilà, bah, elle le fait et en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose à sa façon d'envisager cette question-là.
Oui, c'est pour ça que le titre de votre estimable émission me rend perplexe. Parce que, est-ce que la Chine prend des responsabilités? Non. Quelles responsabilités? Je cite dans mon livre un exemple, si vous voulez, de responsabilité, sorte de nécessité morale de devoir compenser un péché ou une faute éventuelle. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, je vais prendre deux minutes, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Bill Gates, L'homme le plus riche du monde a donné 45 milliards de sa fortune pour aider le tiers-monde. Bon. Et puis, Warren Buffett l'a suivi aussitôt après. Et puis, c'est...
Ces deux braves gens,
qui, quand même, en se mettant ensemble, ont mis 90 milliards de dollars au pot. Ils ont créé une association qui s'appelait Giving Pledge, où tous les milliardaires allaient s'engager à verser une grande partie de leur fortune pour sauver le tiers-monde. Bon, ça, c'est la responsabilité morale, si vous voulez, des États-Unis. Ils ont été faire une tournée en Chine, Warren Buffett et Bill Gates. Bien entendu, comme c'est des superstars, ils ont été reçus comme des chefs d'État. Et ils ont fait un bide noir. C'est-à-dire que pas un milliardaire chinois a dit « Maintenant que nous sommes riches, nous allons donner ». On s'en fout. Quand on est riche, on en profite, point barre.
Ah, ça, c'est vraiment intéressant sur la façon, justement, dont la Chine considère peut-être sa responsabilité. Aujourd'hui, grande puissance, immense puissance économique, puissance aussi politique, mais qui traduit ça comment, alors, Emmanuel Lincot?
Moi, ça me permet de rebondir à travers cet exemple, et merci beaucoup, sur un fait qui me paraît quand même tangible et intéressant. Il faut dissocier les affaires commerciales, paradoxalement, même s'il existe des interactions, et les enjeux et les configurations géostratégiques. La preuve, par la visite récemment du général Mattis, secrétaire d'État à la Défense, auprès des alliés traditionnels des États-Unis dans la région, la Corée du Sud, le Japon. La preuve également par la démission de Flynn, il y a quelques heures encore, hein, ça fait quand même tout à fait intéressant.
Qui était le secrétaire d'État à la sécurité intérieure aux États-Unis.
C'est ça.
Fait un passage éclair.
Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que on maintient sur le temps long des relations pérennes sur le plan stratégique avec les alliés traditionnels des États-Unis, quitte également à reculer, comme l'a fait Trump, lamentablement, il faut bien le dire, en annonçant avant même d'être élu qu'il pourrait éventuellement conditionnel remettre en cause la politique de la Chine unique en recevant justement l'appel fameux téléphonique de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen le 2 décembre dernier. Et puis on apprend quelques jours après, récemment, qu'en aucun cas, suite à la conversation qu'il a eue avec son homologue Xi Jinping, il remettrait en cause cette politique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, il y a versatilité, des attitudes, des postures, c'est l'écume des jours, je dirais, mais structurellement, les choses, en tout cas d'un point de vue stratégique, à mon avis, ne vont guère changer parce que l'équilibre du monde et la sécurité même des États-Unis en dépendent.
Allez, Sekman.
Quand on parle de responsabilité, je pense qu'il faut aussi parler d'intérêt national. C'est-à-dire que, oui, la Chine défend avec plus de vigueur ses intérêts. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus responsable? Ça dépend de ses intérêts, en fait. C'est-à-dire qu'elle a une approche...
Mais ça, c'est une définition de la diplomatie, finalement.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut y revenir, parce que la Chine a une approche différente, à géométrie variable, selon la nature de ses intérêts. Par exemple, elle était plus engagée au Sud-Soudan ou en Birmanie, où elle a des intérêts plus importants. Par contre, elle était relativement en retrait face à la crise ukrainienne ou à la crise syrienne. Tout cela s'explique aussi par les enjeux sur place, le nombre de ressortissants chinois sur place, le nombre d'investissements chinois sur place. Aujourd'hui, on peut dire que la Chine prend davantage ses responsabilités par rapport à, on peut dire, la décennie précédente en termes de protection de ses ressortissants et ses investissements à l'étranger. La Libye, en 2011, a été un traumatisme parce que la diplomatie chinoise a dû évacuer très rapidement près de 35 000 de ses ressortissants chinois qui étaient présents en Libye. Les entreprises chinoises ont perdu énormément d'argent suite à la crise libyenne. Plus récemment, la Chine a dû évacuer rapidement plusieurs centaines de ses ressortissants au Yémen. Les ouvriers chinois, les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à l'étranger, y compris dans des zones à risque. Et dans ce contexte là, oui, la Chine protège davantage ou essaie davantage de protéger ses ressortissants et ses investissements. Et ça aussi, ça implique un engagement croissant dans certaines crises, au sein de certaines crises, mais pas forcément un changement d'approche vis-à-vis de toutes les crises mondiales ou tous les enjeux régionaux. Tout est proportionnel en fonction des intérêts sur place.
Jacques Ravroy, est-ce que cette prise de responsabilité à l'égard des ressortissants chinois qui se trouvent à l'étranger pourrait aller jusqu'à participer à des interventions militaires? On va aller alors sur un des sujets aussi quand même qui sont une question internationale extrêmement importante aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Jusqu'où la Chine pourrait être amenée à coopérer sur ce sujet?
Alors, bon, sur l'affaire libyenne, on est d'accord, il y avait 35 000 ouvriers chinois qu'il fallait exfiltrer. Ils ont d'ailleurs été exfiltrés, bon. Mais sur l'affaire ukrainienne, Il y a eu deux choses dans l'affaire ukrainienne. Il y a eu l'attaque en Ukraine de l'Est, et puis il y a eu l'annexion de la Crimée. L'annexion de la Crimée par les Russes, les Chinois sont rentrés sous terre. On les a pas entendus nulle part, ni aux Nations Unies, ni ailleurs. Pourquoi ? Parce que la Chine, à chaque fois que nous posons une question qui fâche à la Chine sur les droits de l'homme, sur le Tibet, sur etc., ils répondent « intolérable ingérence dans les affaires intérieures chinoises ». Et là, d'avoir une ingérence des Russes dans un territoire qui jusqu'à présent était quand même un territoire rattaché à l'Ukraine, les Chinois sont rentrés sous terre, parce que si on commence...
Oui, mais s'il y avait eu des Chinois en Crimée?
Ah ben s'il y avait eu des Chinois en Crimée, on les aurait exfiltrés par d'autres moyens, mais on va pas envoyer des chars chinois, si vous voulez, en Crimée.
Bon, d'abord, il y aurait une position chinoise plus claire sur la crise.
Oui, sûrement, mais enfin, pour l'instant, ça met complètement les Chinois en porte-à-faux. Alors, ils participent aux opérations de maintien de la paix, ils participent aux patrouilles, ils ont beaucoup participé aux patrouilles au large de la Somalie, anti-piraterie, etc. C'est d'ailleurs un bon moyen d'apprendre, hein, comment les autres fonctionnent, n'est-ce pas ? Donc ça met à jour la marine chinoise. Bon, c'est tout ça est très bien. Mais attendre des Chinois qui tordent le cou à leur doctrine d'ingérence, ça c'est une autre affaire.
Mais alors, il s'agit de toute évidence de ne pas s'aliéner la relation avec la Russie, même si c'est une relation de circonstance. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'on fait équipe sur des affaires encore essentielles comme l'Iran, l'Ukraine, effectivement la Syrie. On fait équipe également pour casser le maillon faible de l'OTAN à la hauteur de la Turquie. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir justement l'entrisme chinois et les chants de sirène prononcés depuis Pékin par Xi Jinping à l'endroit d'Erdogan et d'Ankara. Mais en même temps, oui, c'est une diplomatie à géométrie variable, c'est vrai.
Il s'agit la question de la lutte contre le terrorisme.
Alors, la lutte contre le terrorisme est liée non pas à des états d'âme ou des élans de générosité, c'est parce que le nombre de ressortissants chinois à l'étranger a considérablement augmenté. Je vous donnerai deux chiffres qui sont énoncés par Mathieu Duchâtel de l'ECFR. European Council for Foreign Relations. C'est un think tank de l'Union européenne basé notamment à Paris, qui dit et rappelle ceci. En 1982, il y avait 200 000 ressortissants étrangers, à la fois touristes, hommes d'affaires, 200 000. En 2015, ils étaient 125 millions. C'est tout à fait considérable. Ce qui explique justement la nécessité et la légitimité même pour la Chine d'intervenir à l'extérieur de ses frontières. Et pour cela, rappelons-le, l'année dernière, elle a restructuré son cadre juridique pour légitimer justement son intervention à l'extérieur. Elle est en train également de donner l'ordre à son industrie d'armement de construire 1 000 000 d'avions transporteurs de troupes à long rayon d'action, les fameux Y-20, mais aussi des drones de nouvelle génération, des surveillances satellitaires avec le Nigeria, par exemple, et d'autres pays d'Afrique pour lutter contre le terrorisme, et évidemment pour défendre ses intérêts miniers, notamment. Donc, évidemment, là, on rejoint encore des principes de souverainisme.
Alors, il y a un sujet, un domaine dans lequel, alors peut-être, mais vous allez me dire si je suis encore trop naïf ou pas, la Chine semble exercer une forme de responsabilité de manière peut-être davantage désintéressée que dans les autres domaines qu'on a évoqués. C'est évidemment celui de l'environnement. La Chine, aujourd'hui, est le pays, par exemple, qui plante le plus d'arbres au monde.
Il y a la Grande Muraille de pierre, construite il y a 2000 ans. Et il y a la Grande Muraille verte, beaucoup plus récente, quelques dizaines d'années tout au plus. Il s'agissait à l'origine de protéger Pékin des vents de sable venus du désert de Gobi et qui étouffent la ville régulièrement au printemps. On a donc planté des millions d'arbres à la lisière du désert, en Mongolie intérieure, à 200 km de la capitale, avec une certaine efficacité. Mais entre-temps, la menace a changé. Pékin étouffe toujours, mais moins à cause du sable que du dioxyde de carbone et des particules fines qui s'accrochent dans nos poumons. Et pour cela, même remède que pour le sable, les arbres, qui agissent comme des aspirateurs à carbone. Pour être plus efficace, cet aspirateur à carbone doit être plus proche de la source, plus proche donc de Pékin. La Grande Muraille Verte s'est donc avancée jusqu'au cœur de la ville, dans ce parc de 680 hectares, le double de Central Park à New York, planté à l'occasion des Jeux Olympiques.
Bon, alors la Chine qui construit cette grande muraille verte, la Chine qui a ratifié le protocole, enfin l'accord de Paris sur le climat, qui prévoit de mettre en place des mesures anti-pollution. Est-ce que là, dans ce domaine-là, on peut considérer, Alice Eichmann, que le pouvoir chinois fait preuve de responsabilité et le fait de manière tout à fait proactive et sans forcément avoir énormément d'arrière-pensée?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience ces 10 dernières années en Chine, et ces 5 dernières années notamment, de l'ampleur du problème, de la question environnementale, de la pollution de l'air, de l'eau en Chine. Mais on ne peut pas totalement la séparer de la question sociale et politique, parce que concrètement, aujourd'hui, les autorités chinoises sont pleinement conscientes que le problème représente également un risque social et un risque politique face à l'exaspération de la population, notamment des grandes villes, face à la situation dans ces villes.
Donc, il y a avec une population en plus qui n'a pas beaucoup d'autres sujets sur lesquels elle peut se mobiliser sans que ce soit considéré comme de la dissidence politique.
Oui, cette mobilisation peut même, dans certains cas, a même été considérée comme de la dissidence politique, mais elle a aussi été écoutée dans d'autres, parce que les autorités chinoises sont conscientes que c'est un sujet vraiment très chaud, entre guillemets, et qui pourrait très vite se propager, c'est-à-dire que la mobilisation pourrait se propager à l'échelle nationale, et donc la Chine souhaite y apporter une réponse. Ceci dit, il ne faut pas non plus avoir une lecture simpliste, c'est pas uniquement du fait du risque social et politique que la Chine s'engage davantage dans la protection de l'environnement, c'est aussi une opportunité économique en termes de développement des villes, ce qu'on appelle les smart cities, l'urbanisation verte, les panneaux solaires. La Chine est très présente sur ce marché avec des entreprises compétitives. Et puis la Chine, c'était aussi un moyen pour la Chine, là aussi, d'apparaître comme acteur responsable. Et c'est ce qu'elle a souhaité faire lors de la COP21 avec une approche plutôt constructive.
Emmanuel Linco.
Je pense que la COP21, enfin l'avenir nous le dira, était une déclaration de bonne intention, un peu comme la ratification du protocole de Kyoto. Hein. Il y a des avancées, mais en même temps, je pense que Jacques Gravreau aura un chiffre précis à ce sujet. Pour être moins abstrait, moi je rappellerai un fait. Lorsque vous êtes à Pékin, vous inhalez l'équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour. Donc c'est absolument dramatique. Donc il y a une sorte, si vous voulez, de double discours, de schizophrénie, même politique chinoise. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit oui, on va stopper les gaz à effet de serre et leur émission assez rapidement. Puis dans les faits, la production de charbon ne cesse d'augmenter. Et c'est évidemment dramatique. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vrai, et je rejoins ce que disait un instant Alice Eichmann, c'est qu'il y a une prise de conscience, la preuve par ce documentaire fameux, vous vous souvenez, il y a 2 ans, Sous le Dôme, qui avait été en partie montré, et donc on avait laissé faire en haut lieu pour la diffusion de ce documentaire. Et puis, au bout de quelques heures, après que 400 millions et quelques d'internautes aient suivi avec assiduité ce documentaire, eh bien le dit documentaire avait été censuré. Donc là aussi, on oscille constamment. Et on aimerait justement que la Chine soit un peu plus responsable de ce point de vue-là, pour le coup.
Jacques Gravreau.
Alors là, on n'est plus dans la responsabilité, on est dans la survie, carrément. Parce que moi, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais j'ai par contre beaucoup d'amis chinois et dont les sujets de conversation principaux à chaque dîner qu'on a ensemble, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'eau qui est polluée absolument partout, et c'est la pollution atmosphérique. Enfin, nous, il faut voir de quoi on parle. Nous, à Paris, on déclenche quasiment le plan Orsec quand il y a 40 nanogrammes par mètre cube de particules fines. Le jour de Noël à Pékin, il y en avait 500. Nanogrammes par mètre cube. Le jour du marathon de Pékin en octobre, ça c'est encore plus rigolo parce que il y avait 390 nanogrammes par mètre cube. Avec, si vous venez de l'étranger, il vous faut un masque à gaz moderne pour résister. Le jour du 1er janvier, 427. Alors je sais bien que c'est en hiver, il fait froid, il fait plus froid, mais c'est une horreur absolue. Donc, il n'est que temps, si vous voulez, que la Chine s'en préoccupe. Elle s'en préoccupe d'ailleurs, mais avec des choses choses parfois tout à fait amusantes. Enfin, si ça n'était pas tragique, le jour du défilé de septembre 2015, au moment de la réunion de la PEC, etc., on a purement et simplement fermé 10 000 usines autour de Pékin pour avoir du ciel bleu. Alors, on a eu du ciel bleu, mais on peut pas faire ça toutes les 3 semaines.
Ouais, parce que sinon, effectivement, le PIB de la Chine pourrait plonger de manière assez conséquente. Merci beaucoup, en tout cas, tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Alice Ekman, Emmanuel Linco et Jacques Ravreau, je rappelle votre livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol, La Chine conquérante. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Anthony Thomasson. Et demain, la question que nous poserons à partir de 18h20 sera la suivante. Le populisme est-il proche du peuple? Ce sera un débat entre Éric Fassin et Alain de Benoît. Tout de suite, on retrouve Mathilde Serrel et Martin Kénéen pour Ping Pong, enfin surtout pour Le Sommaire. Bonsoir à tous les deux.